France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, les discours complotistes se répandent presque aussi vite que le coronavirus. Dernier exemple, ce documentaire Hold Up, sorti mercredi, financé par des cagnottes en ligne, et selon lequel la pandémie serait le résultat d'un complot mondial. Bonjour Marie Pelletier. Bonjour, est-ce que vous êtes avec nous Marie Pelletier ?
Je suis avec vous, je vous entends.
Parfait, vous avez écrit plusieurs livres sur le complotisme. Vous avez jeté un œil à ce documentaire. C'est vraiment l'exemple parfait, le condensé de tout ce qui se raconte en ce moment sur la Covid.
Oui, c'est le condensé. J'étais assez étonnée d'une part par la piètre qualité de ce documentaire, c'est-à-dire que c'est simplement une espèce de bout à bout de clichés conspirationnistes assez grossiers. J'ai pas trouvé ça très subtil et donc j'étais un petit peu étonnée du succès fulgurant de ce documentaire qui finalement ne me semble qu'un remake des poncifs conspirationnistes de ces dernières années.
Quand on parle de théorie du complot, l'emploi du mot théorie donne l'impression que c'est quelque chose de très construit. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, il y a une construction narrative en tout cas. C'est toujours l'idée que derrière le récit qu'on nous donne des événements, il y a en fait une mise en scène au service d'intérêts cachés. Et cette structure narrative, elle se retrouve dans toutes les théories du complot et elle est vraiment la trame en quelque sorte. À côté de cette structure narrative, il y a aussi une sémantique. Il y a aussi tout un imaginaire politique qu'on va retrouver de manière cyclique lui aussi.
Donc il y a des points communs dans toutes les théories du complot, les ressorts internes, le fonctionnement. C'est toujours similaire.
Oui, c'est un imaginaire de la défiance à l'égard de ce qui est perçu comme la parole du système. Donc c'est l'idée de discréditer ce qui serait un système qui nous oppresse et d'essayer de traquer dans ce que nous dit le soi-disant système tous les indices de la vérité cachée. Ça, c'est vraiment la logique interne au conspirationnisme contemporain.
Et donc là, à propos de la Covid, ça se traduit de quelle façon ? On dit quoi ? Que le virus a été créé de toutes pièces ? Est-ce que c'est volontaire pour de la part des gouvernements, c'est ça ? Qu'est-ce qui ressort de ce documentaire ?
Alors déjà, le conspirationnisme, ça se répand toujours à des degrés divers et ça se voit très bien dans ce documentaire. Ce documentaire ne dit pas vraiment de manière brute, c'est une conspiration totale, une invention totale. Il est un tout petit peu plus subtil que ça. Il distille en fait le doute sur toute une série d'éléments liés au virus. Sur les masques par exemple, sur les vaccins, sur le traitement médicamenteux, etc. Sur la parole politique évidemment, sur les mesures qui ont été prises au niveau sanitaire. Et donc l'idée c'est de pas de dire... Enfin, aucun conspirationniste ne dit explicitement, pratiquement, il y a un complot mondial parce que personne n'a envie d'être vu comme un conspirationniste. Mais par contre, le conspirationniste va chercher à instiller le doute et à dire c'est pas normal, on vous ment, on ne vous dit pas exactement la vérité, etc. C'est vraiment cette logique-là qui indique le conspirationnisme.
Et est-ce que ça s'appuie toujours sur une part de vérité ? C'est pour ça que c'est compliqué de déconstruire ces discours ?
Alors oui, en tout cas, ces discours s'attachent généralement à, comme ils s'attachent à traquer des éléments qui posent problème. Forcément, dans ces éléments qui posent problème, il y a des choses qui font sens pour les gens qui pointent des problèmes réels. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est à mon avis assez frappant en France comme partout en Europe. Les mesures assez incohérentes qui ont été prises depuis le début de la pandémie, forcément, vont être utilisées pour dire vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, ces mesures incohérences, je pense qu'elles sont en grande partie liées à de l'incompétence ou bien elles sont liées à un manque de courage politique, etc. Mais dans le cas du conspirationnisme, ça va être interprété comme un signe du mensonge en quelque sorte.
Et est-ce que le fait aussi qu'on ait vu pas mal de scientifiques en désaccord, ça aussi, ça a permis ça a joué, ça a nourri les discours complotistes ?
Oui, parce que la complexité de la réalité sanitaire et donc le fait que il n'y a pas une unanimité scientifique, forcément, dans la logique conspirationniste, c'est encore une fois le signe qu'on fait taire certains et qu'on écoute d'autres. Et donc c'est encore une fois, c'est toujours ce prisme de la preuve qu'on nous ment. Et je pense que c'est vraiment très important de comprendre ce prisme conspirationniste parce que le conspirationniste du coup va chercher toute incohérence ou toute contradiction et interpréter ça comme le signe d'un mensonge.
Les complots, ça se nourrit toujours des cris. C'est dans ces moments-là qu'on en voit le plus.
Alors le complotisme, en tout cas, oui, effectivement, il y a presque toujours une réactivation de l'imaginaire complotiste quand il y a un trauma collectif. Pensons par exemple aux attentats terroristes. Quasiment à chaque attentat, il y a aussi une recrudescence de la parole conspirationniste, parce qu'en fait, le conspirationnisme, il vient offrir une lecture clé en main d'un événement traumatisant. C'est ça qu'il offre comme plus-value. Le Covid, c'est un événement extrêmement traumatisant pour l'ensemble de la société, et forcément, beaucoup de gens ont peine à comprendre ce qui arrive. Or, on a en plus un politique qui a été extrêmement peu cohérent, encore une fois, par rapport à la situation et à la gravité de la situation. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui donne naissance à ce qu'on peut appeler des contre-récits, c'est-à-dire des discours qui vont prétendre apporter la vérité et la clarté sur la situation.
Et comment ça se répand? Vous parliez de donner naissance, justement, à ces théories du complot. Ça apparaît dans la tête d'un petit groupe de personnes et ça fait boule de neige. Est-ce qu'il y a vraiment des idéologues du complot à l'origine et après ça se diffuse? Ça marche comment, en fait?
Alors déjà, c'est un phénomène massif, je pense que ça, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à l'heure actuelle de 2-3 idéologues du complot qui répandent leur théorie. C'est en fait n'importe quel citoyen qui peut fabriquer sa propre théorie à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, on a sur le web, depuis plusieurs années, une diffusion très 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 large de cet imaginaire conspirationniste. Et donc en fait, aujourd'hui, c'est à ça qu'on fait face. Et c'est pour ça que c'est tellement massif. C'est que... À la fois des vrais idéologues, bien sûr, profitent de la pandémie pour répandre leurs obsessions, évidemment, et donc leurs obsessions conspirationnistes. Mais il y a pas seulement eux. Il y a aussi le citoyen lambda qui ne comprend pas ce qui se passe, qui va commencer à faire ses propres recherches entre guillemets et qui va en fait se construire sa propre version des événements. Et donc c'est tout ça qui se mêle.
Et est-ce qu'il y a un profil particulier des complotistes? Est-ce qu'il y a des points communs ou ça peut être vraiment tout le monde?
Eh bien, vraiment, ça peut être vraiment tout le monde. Je pense qu'on doit absolument sortir de cette idée que le conspirationnisme, c'est seulement quelques personnes non éduquées ou quelques personnes qui ne seraient pas, qui seraient d'une telle ou telle origine culturelle, comme on l'a cru à un moment donné. C'est absolument faux. Ou bien que ce soit plus les jeunes, par exemple. On a pu penser ça aussi à un moment donné. C'est tout à fait intergénérationnel. C'est dans toutes les communautés culturelles et religieuses. C'est dans tous les milieux sociaux. C'est aussi dans les milieux intellectuels. On le voit d'ailleurs très bien dans ce documentaire, que le jargon intellectuel est très fort utilisé au profit de cette rhétorique. Et donc vraiment, je pense qu'on doit tous se regarder dans la glace et regarder nos milieux sociaux dans la glace à propos de ce phénomène.
Une dernière question, parce qu'il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, Marie Pelletier. Qu'est-ce qu'on fait si on est confronté à ce discours dans notre entourage? Comment on peut le déconstruire?
Alors je pense que ce qui est très important, c'est de quitter l'argumentation et la contre-argumentation pure, parce que le conspirationniste, il va toujours, quelqu'un qui est dans l'imaginaire conspirationniste va toujours prendre tout argument pour essayer de le retourner, et donc ça devient très vite contre-productif. Je pense qu'il faut plutôt essayer de comprendre pourquoi la personne adhère à ça, et donc essayer de comprendre quelle est la colère qu'il y a derrière, quel est le sentiment qu'il y a derrière. C'est plutôt dans une discussion, dans ce type de discussion un peu plus fondamentale, qu'on arrive à renouer un dialogue, parce que sinon on entre vite dans des espèces de débats qui ne sont pas très constructifs.
Oui. Merci beaucoup pour vos explications, Marie Pelletier. Je rappelle que vous êtes historienne et je vais citer deux de vos livres, L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée, et l'autre, Obsession dans les coulisses du récit complotiste. Vous étiez l'invité du 5-7.